Bonjour chers amis, je voudrais avec vous méditer le premier chapitre de Saint Marc, versets 1 à 8, pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Je voudrais d'abord faire un peu de géographie, c'est très intéressant parce que là où Jean-Baptiste se trouve, où il est au sud du Jourdain, tout près de la mer Morte, il est exactement là où le prophète Élie a fait son départ vers Dieu, on le voit au second livre des Rois. Et on croit jusqu'au temps de Jésus que ce fameux prophète Élie doit revenir. C'est pour cela, à mon avis, que Jean-Baptiste, on le présente dans l'Évangile, vêtu comme Élie, avec un manteau en poil de chameau. C'est le sens du désert. Il est bien en terre promise, mais cette terre promise est devenue malheureusement un désert. C'est-à-dire que le peuple a trahi l'Alliance. Et on le voit manger, il mange des sauterelles. Pourquoi on le dit? Parce qu'il est encore dans le désert, le lieu finalement de la désobéissance. Mais aussi, il mange du miel, il est quand même en terre promise. Vous vous rappelez cette terre où coule le lait et le miel? Le lait, c'est ce qui nous est donné par les animaux, le miel aussi par les abeilles, mais aussi par la végétation. C'est les deux dons qui nous sont faits parce que l'homme n'a que faire pour les produire, il ne fait que les récolter. Le deuxième point que je voudrais vous dire, qui est aussi passionnant, c'est que avant le prophète Élie, ce lieu précis, c'est l'endroit où est arrivé le peuple de Dieu venant d'Égypte à la fin de l'Exode. C'est là exactement l'endroit où il est entré en terre promise. C'est l'apôtre Jean qui, dans son évangile, nous dit que Jean baptisait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Et là aussi, il faut lire toutes les indications. C'est bien au-delà du Jourdain, c'est de l'autre côté, comme si Jean baptisait à l'endroit où le peuple n'était pas encore entré en terre promise. Et il y a une signification théologique très intéressante. C'est qu'il nous dit, Jean-Baptiste, il faut revenir au point zéro, au point de départ. Il faut repasser le Jourdain, d'où la question du baptême. Et c'est mon deuxième point, et là ce serait plutôt un point d'histoire. Jean-Baptiste est en train de proposer, d'inviter à plonger, c'est le mot, hein, baptizein, à plonger dans le Jourdain une deuxième fois. Et on se demande, mais que fait Jean-Baptiste dans cet endroit si chaud, si brûlant du désert? Pourtant, il est le fils d'un prêtre, le fils de Zacharie, il devrait se trouver au temple. Eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, dans l'histoire d'Israël, il y a une grande crise. Il y avait beaucoup de rites de purification. Il y avait les fameux moines de Qumran qui n'étaient pas très loin. Ils avaient aussi beaucoup de rites de purification. Pourquoi? Parce que le temple ne faisait plus son office. Le temple semblait corrompu et c'est pour ça que les gens revenaient au désert et faisaient des purifications, non seulement, si vous voulez, des rites, des purifications rituelles, mais en tout cas, on le voit chez Jean-Baptiste, il faisait de vraies purifications. Mais entre ces purifications qui existaient dans le peuple de Dieu et celles que fait Jean-Baptiste, il y a une grande différence qu'il faut noter. En effet, les rites se répétaient sans cesse. Là, on a vraiment l'impression que Jean-Baptiste offre un seul baptême. Habituellement, les rites de purification, on les fait soi-même, un peu comme avant le Covid, on prenait de l'eau dans le bénitier avant d'entrer dans une église. Mais là, c'est un autre qui nous plonge dans l'eau. C'était un baptême individuel, alors que souvent les rites sont collectifs. En fait, on va conclure, on va dire que Jean-Baptiste propose aux gens un acte quasi sacramentel. Et on nous dit que les gens, en étant baptisés, confessaient les péchés à voix haute, comme finalement le jour du Yom Kippour, vous rappelez ce jour du grand pardon, où tout Israël se met en pénitence et confesse les péchés. Et là, il est bien dit, ils se faisaient baptiser par lui en confessant leurs péchés, comme si tout ce qui est prévu au temple ne marche plus. Et on a l'impression que Jean-Baptiste est le prêtre d'un nouveau culte qui supplante celui du temple. Et il invite à une nouvelle manière de prier. On quitte la purification rituelle et on demande la vraie purification du cœur. Et là, je vous donne un troisième point, c'est que Jean-Baptiste dit que mon baptême est très important, il est quasi sacramentel, mais je vous annonce un baptême plus fort, un baptême dans l'Esprit Saint. Et là, il y a le coup de la sandale. Ça, ce coup de la sandale vous semble peut-être anodin, mais pour moi, il est extrêmement fort. Pourquoi ? C'est parce qu'on va d'abord le retrouver en Matthieu, en Luc, mais aussi en Saint Jean, et aussi dans les Actes des Apôtres, cette mention que Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». Ça semble un détail vraiment anodin, vraiment complètement bidon, on va dire, mais ça a une grande importance. Pourquoi ? Parce que nous savons maintenant que les rabbins engageait des disciples, ou plutôt les disciples demandaient au rabbin, un peu comme si vous voulez faire une thèse, vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous voulez me prendre en charge pour la rédaction de ma thèse ? Est-ce que vous voulez me tutorer ? Et les rabbins, en compensation, demandaient, oui, je veux bien te tutorer, je vais t'apprendre la Torah, mais tu vas être à mon service, c'est-à-dire que tu vas faire mon linge, tu vas faire la cuisine, tu vas nettoyer ma maison, etc. Mais il y a une chose que la Torah interdisait de faire, c'est que les disciples déchaussent le maître et notamment leur lavent les pieds. Et pourquoi ne pas dénouer la courroie des sandales du maître, du rabbin ? Parce qu'à ce moment-là, je vais me mettre à genoux. Et il ne faut surtout pas que je le considère comme Dieu. Dieu est Dieu. Et mon rabbin, peut-être qu'il est génial, mais il est seulement mon rabbin. Et là, ce qui est formidable, c'est que Jean-Baptiste nous dit trois choses. Il dit... Il vient derrière, avant moi, je suis derrière lui, je suis son disciple. Mais non seulement je ne ferai jamais le dénouement de sa sandale, non seulement, deuxième chose, je pourrais à la limite délier la courroie parce que je peux vraiment me mettre à genoux devant lui, mais troisième chose, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et là, on voit que Jean-Baptiste a une image extrêmement profonde de celui qui va venir, du Messie attendu. Je vous propose pour conclure quelques points. Tout d'abord, entendez la parole d'Isaïe que reprend Jean-Baptiste. Entendez-la en ce temps d'avant. Préparez les chemins du Seigneur. Comment se préparer ? Saint Ignace va nous dire comment se disposer. Il faut d'abord faire silence, me mettre en état d'écoute, et puis me rendre disponible. C'est-à-dire prendre du recul par rapport à toutes les réalités auxquelles je suis attaché. Ma famille, mon travail, mes relations, peut-être ma relation privilégiée, ce que je veux faire. Mais plus exactement, prépare-toi, dispose-toi. Mais j'entends aussi un autre... mot, une autre injonction dans la parole de Jean-Baptiste, reviens, reviens au point de départ, reviens au-delà du Jourdain, reviens à ton baptême et prends quelque temps pour te demander quelle direction vraiment je veux donner à ma vie, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je veux changer. Et là, ce ne sera pas du volontarisme parce que je vais en demander la grâce, une grâce d'intelligence pour bien voir ce que je dois changer dans ma vie, et puis une grâce de force pour pouvoir l'accomplir. C'est ce que je souhaite à chacun de vous. Amen.